Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 5 d'Autour du Feu qui sera consacré à cette saison All-Star des 20 ans, Koh-Lanta la légende. Et avec moi j'ai mon complice, mon binôme, c'est SLZ. Salut Arnaud.
Je suis Bonnie, tu es McClyde ou l'inverse, je sais plus. Bonsoir Damien.
c'est complètement ça, ouais. Alors du coup Arnaud, est-ce que pour toi l'issue de cet épisode est satisfaisante ?
Oui, j'ai trouvé que c'était un bon épisode après la purge qu'on a eue il y a 15 jours, après la purge qu'on a eue il y a une semaine, c'était un bon match de l'équipe de France, mais on a eu un bon épisode ce soir, de bonne facture.
Alors, on va se faire un plaisir de débriefer tout ça, et avec une habituée, d'ailleurs dernièrement elle a lancé un podcast qui s'appelle Radar, et elle va nous en parler un peu, c'est Emma, salut Emma.
Salut à tous, déjà merci Damien pour la mention, et ouais, c'est un podcast de recommandations culturelles qu'on a lancé avec une pote. On scrute un peu ce qui sort sur le moment et on vous parle de ce qu'on a aimé. Donc voilà, c'est sur Spotify, Deezer, si ça vous tente, n'hésitez pas à l'écouter.
Et pour avoir écouté le premier épisode, c'est très cool, donc vous pouvez y aller sans problème, on recommande. Du coup, est-ce que c'était un épisode qui était sympa pour toi ?
Ouais, carrément, franchement j'ai beaucoup aimé l'épisode. La tournure très féministe que ça prend sur des séquences, j'ai beaucoup aimé, mais on aura l'occasion d'en parler plus longuement.
Aussi, quelqu'un qui a dit un jour « Je ne vais pas les écraser, mais les faire s'aplatir devant moi, c'est ça la force du social. » C'est Juju. Salut Juju.
Salut Damien. Bon, c'est pas exactement ça la phrase, hein, mais bon, l'idée est là.
Bon, j'avoue, je l'ai fait de tête, c'est peut-être pas forcément ça.
Je ne suis pas là pour rouler sur mes adversaires, je suis là pour que mes adversaires s'allongent devant moi, c'est ça. Le pouvoir du social.
Ah. Et du coup, ça avait bien marché, puisque je rappelle à toute fin utile que tu m'as éliminé seulement deux fois.
Désolé.
De suite. Et que je te vois encore. Alors, du coup, on va pas commencer l'épisode tout de suite, parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. J'ai été contacté il y a quelques jours, justement, et retenez cette date, le dimanche 17 octobre à 17h45, pardon, on fera un épisode en live et en public au Paris Podcast Festival, donc à la Gaîté Lyrique à Paris. Donc il y aura moi, il y aura Arnaud, il y aura Frise et Emma. Donc et on aura une invitée très spéciale, voilà, une invitée spéciale qui sera avec nous, qui a confirmé aujourd'hui. On va pas dire tout de suite qui c'est, mais voilà, du coup on va faire notre premier live. Il y aura du public, il y aura des gens qui vont nous regarder et tout, et ça va être vraiment super cool. Donc si vous êtes à Paris, donc le dimanche 17 octobre, ce sera en fin de journée, donc à la Gaîté Lyrique, eh bien, on vous invite à venir nous voir et à venir parler avec nous un peu de stratégie. Donc je suis super content, je suis content qu'on nous ait proposé ça, c'est un super truc, j'aurais pas pu rêver mieux. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir en vrai la tête d'Arnaud autrement qu'à la télé.
Et mon gros ventre voilà. Et non, mais c'est un peu notre festival de Cannes, ça. Est-ce qu'il va falloir qu'on vienne tout apprêter en costume trois pièces comme des pingouins ?
Bien sûr.
Bien sûr. Ah, cool. Bon, je vais mettre mon plus beau nœud papillon.
Ah oui, ouais, comme à Stam, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, la rencontre avec Freeze. Ah là là, je pense qu'une fanfiction va commencer.
Ah oui. Et du coup, voilà, c'est bon, on aura Emma avec nous, et puis une candidate très récente qui était vraiment cool, qu'on avait bien apprécié ici, et du coup qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Donc voilà, on vous en dira plus dans les jours prochains.
Oui, ouais. Oui, on va tous pouvoir se voir et toi, se toucher. Ah là là, ouais, franchement, moi je suis comme un gitan au salon de la caravane.
Hein. En respectant les gens.
Oh mon dieu.
Voilà.
Comment gâcher un moment d'émotion.
Ouais, on va pouvoir boire des coups et tout. En plus, si vous connaissez la Gaîté Lyrique, c'est du côté de la rue Saint-Denis, un petit peu tout ça, dans le 10e, 11e. Donc c'est plutôt des quartiers sympas avec des bars sympas. Donc si vous voulez boire avec nous, peut-être qu'on pourra se faire un dimanche. Oui, c'est possible. On pourra toujours peut-être se faire se boire un coup en début de soirée après l'enregistrement. Donc, s'il y a des candidats, des gens qui nous écoutent, qui veulent venir nous voir et boire une petite bière avec nous, ce sera avec plaisir. Alors, du coup, on va switcher sur l'épisode. Et l'épisode arrive tout de suite sur Cindy et Patrick qui arrivent sur le camp de l'île des Bannis. Ils retrouvent Hugo et Karima. Et c'est pas peu dire que les retrouvailles entre Cindy et Karima ont été assez fraîches. Et on retrouve voilà toute la fierté à chaque fois de Karima qui parle de Karma, qui a l'impression à chaque fois de vouloir être en duel avec tout le monde, et on n'est pas sûr que ça l'amène très très loin. Alors vous, pareil, donc ces interactions-là, est-ce que vous avez... Voilà, quelle était votre réaction, justement, face à ces réactions-là? Et c'était quelque chose qu'on attendait un petit peu, la rencontre entre Cindy et Karima.
Bah ouais, c'était ce qu'on attendait. Bon, on voit qu'elle a la rancune tenace. Qu'elle a... Bon, après, vous allez me dire, c'est pas en 3 jours ou en 6 jours, je sais pas où on en est par rapport à son élimination, mais... Voilà, c'est du Karima, zéro social, zéro relationnel, zéro sympathie, zéro empathie, rien, le néant, le vide. Voilà, je suis pas surpris. Et à côté de ça, on a une Cindy toute joyeuse et tout, qui a compris que c'était un jeu et qui veut faire table rase de ce qui s'est passé pendant le jeu. Mais bon, je suis pas étonné de Karima. Son social est au bord proche du néant, donc voilà. C'est une aventurière qui me fait ni chaud ni froid. À part voilà son côté un petit peu arrogante là, qui madame, qui m'irrisse un petit peu.
Ouais, elle est dans une logique très arrogance de combat individuel, de revanche, aucune remise en question. Voilà, après, comme tu disais, Arnaud, c'est du Karima. Moi, je trouve que Cindy désamorce très bien la situation en prenant ça à la cool, à la légère, et en la faisant un peu redescendre aussi. Donc très bien géré de la part de Cindy. Après, voilà, c'est pas une candidate qui est connue pour son social et pour sa stratégie. Elle est là pour le sport, elle est là pour la survie. On le sait tous. Donc voilà, elle fait du Karima, rien de très surprenant, mais ça reste quand même toujours un peu irritant.
Oui, je pense que l'essentiel a été dit, hein. Karima, c'est tout ce qu'on pouvait attendre d'elle. Elle n'a visiblement pas tiré de leçon de son élimination. Elle a la rancune chevillée au corps. Et bon, on peut se dire que si quelqu'un d'autre était arrivé plutôt que Cindy, elle aurait réagi de la même manière. Enfin, quelqu'un d'autre qui avait voté contre elle. Et donc, ouais, rien de bien étonnant. Et la réaction de Cindy face à ça est tout à fait appréciable et en contraste. C'était vraiment le jour et la nuit en termes de social et d'état d'esprit. Parce que Koh-Lanta, c'est pas une aventure individuelle dès le début. Et comme l'a bien dit Emma, Karima, elle est un peu trop dans cet état d'esprit individualiste dès le début de l'aventure, ce qui bah, lui a coûté sa place, ses sauts d'humeur. Ça n'en rend l'issue de l'épreuve de la reine que plus frustrante, parce que Cindy était très proche de garder sa place. Mais bon.
Alors, pendant cet épisode de ce soir, donc, on a eu deux interviews qui sont sorties, qui étaient les interviews de Patrick et de Cindy, puisqu'il y a eu le premier duel, qui était l'affaire d'équilibre, qui est une épreuve qu'il y avait eu notamment dans la Garde des Chefs, et puis dans une autre saison très récemment aussi. Et du coup, c'est Hugo et Karima qui se qualifient, et Cindy et Patrick, donc éliminés. Ce sont les deux premiers éliminés de Koh-Lanta la Légende cette année. Et les deux disaient justement que le fait d'avoir été éliminé là, comme ça, enfin Patrick apparemment avait perdu quelqu'un de proche dans sa famille pendant l'émission, et du coup, voilà, il avait un peu la tête ailleurs. Et pour Cindy, du coup, pareil, en fait, c'était le décalage qu'elle ressentait envers les gens qui étaient à fond, hyper préparés et tout, et elle qui disait qu'elle a une vie de maman, elle est influenceuse, elle bosse, elle a une marque de vêtements, donc du coup, elle n'a pas pris le temps plus que ça de s'entraîner physiquement, et que du coup, elle pouvait ressentir aussi un petit peu le décalage par rapport aux autres gens, et qu'en gros, dans sa tête, pendant l'épreuve, elle était déjà un petit peu dehors. Donc, au final, ce sont deux éliminations assez logiques sur cette épreuve. Vous auriez peut-être préféré voir Karima dehors, enfin, j'imagine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, pareil, cette épreuve vous a plu?
Oui, c'était une épreuve d'équilibre et d'adresse. Donc, les cartes étaient remises, enfin, les compteurs étaient remis à zéro, pour utiliser la bonne expression. Peut-être que sur l'équilibre, Karima, par rapport à son expérience de militaire, etc., peut-être avait un petit avantage là-dessus. Après, l'adresse, ça, c'est quelque chose qui se maîtrise avec du sang-froid, notamment. Bon, par contre, j'aurais préféré voir une partie de Scrabble pour voir le talent de Cindy. Moi, je suis un jeu de lettres, hein, pour voir comment elle aurait placé ses meilleurs mots. Blague à part. Blague qui n'était pas drôle, d'ailleurs. Voilà, c'était sympa à voir. Bon, ça n'a pas pris tout l'épisode, donc c'était assez vite expédié, je trouve. Dans un sens aussi, tant mieux. Parce que c'est voilà, c'est ça reste une semi-statique. Mais bon, c'était voilà, l'issue était pas celui que j'espérais. J'espérais voir Cindy et Patrick continuer, donc autant te dire que j'étais 100% déçu, même si Hugo peut nous faire voir de belles choses par la suite.
Ouais, c'est une épreuve très couperée quand même, avec une part aussi de chance et qui élimine assez rapidement. On n'a pas eu beaucoup de suspense. Mais voilà, moi je suis vraiment dégoûtée pour Cindy, c'était une de mes candidates préférées. Mais comme ça dit dans le chat, elle n'était pas forcément revenue à la meilleure saison et j'espère vraiment la voir sur une saison où il y aura un peu plus de place pour la stratégie et pour les autres aspects du jeu. Et puis c'est très bien pour elle qu'elle ait sa vie à côté et qu'elle soit pas dégoûtée de partir parce que c'est toujours désagréable de voir des gens qui ont la défaite assez amère. Là, c'était pas du tout le cas et ça fait aussi plaisir de voir qu'elle assume sa défaite et qu'elle. Et qu'elle ne s'en tient pas forcément rigueur et qu'elle est aussi contente de partir. Ouais, du Cindy, quoi. Toujours rafraîchissante et ça faisait plaisir
oui,
à voir.
Oui, je suis assez d'accord. Évidemment qu'on aurait préféré que Cindy reste plutôt que Karima. Après, c'était une épreuve assez équilibrée où tout le monde avait sa chance. Cindy est passée vraiment très proche. À un moment, elle en avait 4 sur 5 de posée. Voilà, ça aurait pu basculer en sa faveur. Ça n'a pas été le cas, mais. Mais elle l'a pris avec philosophie et c'est bien de voir ce genre de sortie plutôt que des sorties un peu plus agitées, même si ça fait du drama et qu'on aime bien. Moi, ça m'a plutôt plu que l'épreuve ne dure pas des plombes parce que bon, ça reste l'épreuve de l'exil, la deuxième chance et le concept de l'exil, je n'y adhère pas complètement. Pour moi, ça brise un peu la dimension irrévocable du vote au Conseil et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, de ce point de vue-là, ça ne me déplaît pas qu'on passe pas trop de temps sur cette partie du jeu.
Ouais, ensuite, et puis pour compléter ce qu'a dit Juju et ce qu'ont dit Juju et Emma, voilà, la sortie de Cindy devrait faire réfléchir Karima quand même sur la façon de jouer et la façon de percevoir le jeu. Comme ça me permet de remettre un petit scud à Karima.
Tu fais bien.
Voilà.
Alors, juste après, on avait une scène donc sur le camp des Rouges et on sent que cette saison, là, ils forcent beaucoup sur le côté femme contre homme. Et on voit Kumba qui, pour l'instant, veut prendre le lead et qui veut absolument avoir un F5, les 5 dernières, que ce soit uniquement des femmes. Et du coup, en fait, pour ça, elle décide de mettre un gros coup de pression à peut-être la personne la plus sensible émotionnellement, c'est-à-dire Alexandra, pour lui dire, écoute, est-ce que tu irais dégommer Loïc ou pas ? Donc évidemment, elle va pas forcément accepter. Et du coup, moi, ce que je voulais vous demander, c'est déjà faire des alliances à 8. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Ce coup d'alliance féminine, est-ce que vous pensez que ça peut durer dans le temps ? Et surtout, enfin, Kumba, est-ce qu'on n'est pas, enfin voilà, des coups de pression ? On en a vu plusieurs comme ça, des personnes qui mettaient des coups de pression et ça se finit par se retourner contre eux. Est-ce qu'on nous mettrait pas sur le chemin d'un joli blindside de Kumba ?
Bah. Disons que, ouais, pour répondre à ta question, une alliance à 8, pour moi, ça restera c'est une mauvaise idée dès le départ, parce que, comme elle le dit, Kumba, avec son expérience en géométrie, on veut un carré final à 5 filles. Bon, déjà, un carré à 5, c'est bizarre, ça s'appelle un pentagone. Donc, déjà, ça veut dire que dans ton alliance, de facto, tu vas éliminer 3 filles qui ne seront pas. Voilà, qui. Et comment tu vas choisir ces 3 filles au final ? Une alliance, moins t'as de personnes, plus ton alliance elle peut être solide. Voilà. Déjà, Alexandra, tu sens qu'elle n'est pas OP pour ton alliance par rapport à Loïc, bah déjà tu l'écartes. Après, tu vois avec les autres. Ensuite, ouais, les coups de pression, ouais, on a vu que c'est pas ce qui fonctionne le mieux dans Koh-Lanta. Après, on sent quand même que c'est pas un coup de pression de si tu fais ça. Enfin, c'est pas le même coup de pression qu'a émis Chanis l'année dernière, par exemple, à Vincent, ou du moins que le montage nous avait montré. Mais c'était plus un style est-ce que tu marches avec nous ? Voilà. Et pour finir, c'était, t'avais une autre, je sais plus ce que tu as dit dans ton prélude.
Voilà, donc en gros, c'est l'alliance de 8. C'est est-ce qu'on nous préparerait pas gentiment à un futur blindside de Kumba ?
Et pour répondre à cette question, je sais pas si c'est une préparation, comment on dit, une préparation paiement. C'est-à-dire on nous prépare à quelque chose qui peut arriver rapidement, mais voilà, je sais pas si Kumba sera éjecté rapidement ou pas. Ce qui est sûr, c'est que même là, bon, l'histoire de l'alliance féminine, on sait qu'il y a quand même eu du pré-game. Que le pré-game, ils ont peut-être pas forcément prévu un début d'aventure homme contre femme. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est mort dès le départ. L'alliance féminine à 8 est morte dès le départ par rapport au pré-game.
Peut-être à 8, ce sera compliqué, mais je pense que Kumba, elle est vraiment en stratégie de survie. Et comme elle dit, elle est très proche de Claude, et je pense qu'elle a tout à fait conscience du pré-game entre les garçons. Et du coup, c'est un peu sa seule manière de répliquer, c'est d'attaquer hyper rapidement avec une stratégie d'alliance féminine. Et du coup, par rapport à ça, je trouve ça assez bien joué, même si c'est peut-être trop tôt dans le jeu pour faire une alliance comme ça, surtout que les équipes ensuite sont remélangées. Il y a peut-être Alexandra qui va aller du côté de Loïc, ou Loïc qui va aller du côté des filles, on ne sait pas. Mais du coup, je pense que c'est quand même hyper intéressant de voir ça. Et même si y a forcément des filles qui vont être évincées, parce qu'à la fin, il n'y a que 5 personnes qui vont à l'orientation. Mais ça peut être fait par les épreuves, dans les équipes, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une stratégie de survie de la part de Kumba qui a pris les choses en main en sachant très bien le pre-game côté Claude, côté Laurent, etc. Ça prépare peut-être un blindside aussi de la part des autres membres de l'équipe, mais au moins elle aura tenté, au moins elle aura joué, elle a vraiment pris la stratégie en main sur ce Koh-Lanta, et je trouve ça hyper intéressant à voir. Voilà, là on arrive dans l'épisode, dès qu'on montre le camp des filles, on monte de la strat, même si le coup de pression sur Alexandra, elle aurait pu s'en passer. Mais ouais, non, hyper intéressant de ce côté-là. Et encore une fois, stratégie de survie, tout simplement, je pense, face au mec de l'autre côté.
Oui, tout à fait. Même si la démarche laisse peut-être un peu à désirer dans le fait de mettre Alexandra au pied du mur, je trouve ça tout à fait normal, en fait, de proposer ça, du moins. C'est un peu toujours le cas dans Koh-Lanta. Les premières équipes, qu'elles soient unisexe ou mixtes, il y a toujours, elles laissent une marque indélébile, en fait. Il y a toujours un attachement assez profond et assez durable à ces premières couleurs. Et même si là, il n'y avait pas de couleurs à proprement parler, le fait que ça ait duré quand même 6 jours, donc quasiment une semaine entière de femme contre femme et homme contre homme à vivre ensemble séparés, ça crée ou ça renforce des liens. Et c'est normal, à mon sens, de se dire, avant d'être séparés, bon, bah, on essaye de rester ensemble. Ça permet d'avoir déjà un petit groupe autour de soi, quoi, et de se sentir un peu plus en sécurité. Alors après, est-ce que Kumba a en tête le pré-game possible des hommes entre eux et qu'elle adopte cette stratégie pour s'en défendre? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit assez tout le temps, en fait, dans Koh-Lanta, et donc qui me choque pas particulièrement.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que là, c'est homme et femme, parce que ça a été décidé comme ça au début. Ça aurait été rouge et jaune, ils seraient restés... Enfin, ils se seraient promis des choses entre rouge et jaune, et c'est plus l'appartenance aux premières équipes qui va prendre le dessus dans ce genre de stratégie.
C'est ça, et puis le fait que... Ben, pour la question, est-ce que Kumba va ensuite se faire... avoir par la suite, C'est pas nécessairement le cas parce que, en tout cas, dans cet épisode, la stratégie qu'elle semble diriger n'est pas montrée d'une manière négative. On n'a pas de commentaires négatifs, à part Alexandra qui est un petit peu mise au pied du mur, mais sinon, on n'a pas de commentaires négatifs de voix dissonante qui dirait Kumba se place trop en avant et on ne veut pas suivre sa stratégie.
Alors. Du coup, là, juste après cette scène-là, on a eu les équipes ont été au final formées, donc rouge, jaune, avec une manière assez, assez fine, assez maligne. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce on va dire, c'était un préambule à l'épreuve où il y avait au départ Loïc et Clémence qui devaient prendre chacun le flambeau d'une femme, d'un homme, d'une femme, d'un homme, et choisir en gros comment les équipes étaient faites. Et ensuite, une fois que les équipes étaient formées, elles devaient prendre un flambeau. C'était l'épreuve des flambeaux au final. Et alors, c'est vrai qu'on se plaint toujours un petit peu que pas mal d'épreuves qui sont prises de Survivor, que parfois, bon, les twists sont pas terribles. Mais alors ça, non seulement c'était original, c'était vachement sympa, et du coup, je trouvais que ça apportait une fluidité un petit peu à l'épisode, alors qu'on sait que parfois, justement, les épisodes peuvent être un petit peu plombés parfois par une espèce de dualité un peu bizarre. Et voilà, donc du coup, moi, je sais pas, j'ai apprécié cette épreuve, je sais pas si vous aussi.
Oui, non, c'était une épreuve assez sympa, et oui, la façon dont ont été désignées les équipes, très originale, ça évite beaucoup de choses, déjà que les alliances pré-game se retrouvent déjà en tribu. Ça évite également, parce que je me souviens que quand c'est un seul candidat capitaine d'équipe qui fait les équipes, ça évite aussi l'avantage, parce que en général, c'est chacun leur tour, et celui qui choisit en premier a toujours un avantage de plus. Je sais pas comment l'exprimer, mais au lieu que le deuxième ait un double choix à faire, comme dans une draft NBA par exemple, et ben le premier à chaque fois avait le choix, l'avantage, il pouvait choisir le meilleur homme, la meilleure femme qu'il estimait, etc. Enfin bref, voilà. Mais voilà, non, c'était sympa. Et puis l'épreuve des flambeaux, bon, c'est toujours une épreuve assez, c'est une épreuve légendaire, hein. Depuis la première saison, on y a droit. Donc je vois aucun inconvénient à ce qu'on la retrouve chaque année. Surtout qu'ils arrivent à innover toujours un petit peu la façon dont ils élaborent cette épreuve. Donc voilà, c'était plaisant à regarder. J'ai pas boudé mon plaisir.
Ouais, puis comme tu dis, ça évite aussi qu'il y ait quelqu'un qui se fasse ensuite, qui ait le rôle de chef et qui se fasse potentiellement cibler au niveau des votes, ou qui prenne une certaine responsabilité qu'il a peut-être pas nécessairement envie de prendre. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce twist-là de choix des équipes. J'ai trouvé ça très divertissant aussi. On avait un peu plus de suspense, parce que des fois, bon, les jeux de confort, on n'a pas forcément un suspense incroyable, mais là, vraiment, on avait tout ce storytelling autour du choix des équipes. Donc vraiment un très bon point, et j'ai passé un très bon moment en regardant cette épreuve. Donc voilà, et puis on arrive avec deux équipes qui sont vraiment mises à plat, on a vraiment mélangé les cartes, on a moins de pré-game, moins de hiérarchie dans l'équipe, donc vraiment, vraiment super sympa.
Ouais, je vous rejoins tout à fait, j'ai trouvé le système de composition des équipes super innovant, et ça m'a beaucoup plu, je ne m'attendais pas forcément à ça. J'étais super étonné et content de voir ça. Après, ça limite le pré-game dans une certaine mesure, parce qu'on voit quand même qu'il y a certains noyaux qui sont ensemble, des gens qui choisissent par affinité, typiquement Loïc qui choisit Alexandra en première, là, alors que ce n'est pas forcément, sur le papier en tout cas, la femme la plus forte, entre guillemets, même s'il justifie son choix à la fois par l'affect et par ses capacités dans les épreuves. Kumba qui va choisir Claude à l'inverse, donc... Il y a quand même, dans une certaine mesure, le pré-game et les affinités qui vont jouer, mais ça les limite au sens où chaque personne ne peut en choisir qu'une autre. Ça limite les gros groupes pré-game. Voilà. Et sinon, l'épreuve en elle-même était assez chouette. Pareil, ça n'a pas trop tiré en longueur après la composition des équipes. Seulement trois obstacles, puis placer le... la boule dans l'encoche, et c'était assez, assez fluide, assez sympa à voir. J'ai plutôt bien aimé ce moment d'épisode.
Alors, du coup, les deux équipes, on va dire tout de suite, les jaunes. Donc, il y a Claude, Sam, Phil, Maxime, pour les mecs, et Clémence, Christelle, Candice et Kumba, que DC, chez les femmes. Et chez les rouges, on a Jade, Laurenté, Clémentine, Alexandra, Loïc, Alix et Namadia. Donc, au départ, on peut se dire peut-être des équipes un petit peu... on peut dire, si on parle de force physique, ça pencherait un petit peu du côté des jaunes. Et surtout, et là, je vois dans le chat Estelle qui nous dit que Jade est... Enfin, c'était surprenant de voir là que Jade était la dernière femme choisie. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des personnes comme ça, comme Phil ou Jade, justement, on se dit qu'ils ont peut-être moins de liens avec les autres. Et du coup, on va peut-être les choisir un peu en dernier.
Oui, c'est possible, oui. Bah, on l'a vu lors des premiers épisodes que Phil a pas forcément fait de pré-game et a peut-être moins d'affinité avec les autres hommes. Alors en plus, c'était une femme qui choisissait un homme et vice-versa. Donc du coup, ma théorie tombe déjà à plat. Voilà. Mais par exemple, Sam, qui est réputé aussi être une force physique, n'est pas choisi, est choisi en dernier par les femmes, peut-être par rapport à sa réputation. D'homme viril, mâle, alpha, voilà. Et Phil, ouais, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est pas celui qui a le plus de relationnel. Il a un bon social, mais on le voit rarement dans le relationnel. Je me souviens même ces saisons précédentes. Voilà, c'est pas un Laurent, quoi. Il va pas vers tout le monde, il se fout pas à poil et il se met pas une plume dans le cul, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de plan un peu au ralenti de Laurent en pagne en train de faire une danse de la pluie. Je veux dire, alors, isoler juste ce plan, ça aurait fait quelque chose d'assez marrant, justement, à voir, parce que c'était ça un truc où on se dit qu'est-ce que ça fout là, en fait.
Alors que Phil en pagne, ça aurait été encore plus sympa à voir.
Oui.
Non, mais voilà, donc oui, je suis pas étonné que même Namadia, il a été choisi en dernier par les rouges. Bon, ouais, quand je regarde, parce que j'ai l'ordre de passage, voilà, bon, les deux hommes qui ont été choisis en premier, Claude Théoura, les légendes et ceci et cela, et puis Laurent pour son relationnel et sa bonhomie. Et ensuite, oui, on retrouve les quatre un petit peu en marge du groupe. Et chez les filles, ouais, pareil, Candice, Clémentine, qui a toujours cette réputation de Clem Larage. Donc ouais, non, je suis pas étonné de l'ordre des choix.
Ouais, puis ils ont aussi dû vachement privilégier la vitesse, donc à partir de là, c'est pas étonnant.
Oui, on peut pas tirer non plus énormément de conclusions de l'ordre des choix. Après, moi, ça m'a pas choqué qu'un tel ou un tel soit choisi en dernier. Je veux dire, en termes de force physique, là, dans les 16 qui restent, il n'y en a pas vraiment qui sont très en dessous des autres. On a peut-être effectivement Théoura, Claude qui sont un peu au-dessus, et encore Laurent aussi, qui a été choisi pour sa bonne humeur, son social, mais aussi pour sa performance aux épreuves. Hein. Faut pas oublier que c'est lui qui gagne le parcours, enfin, qui termine deuxième du parcours du combattant, il me semble, chez les hommes. Voilà, il est aussi très physique, et Sam est peut-être un des moins physiques des hommes, malgré son statut de menace en épreuve. Et après, je ne sais pas si l'équipe jaune est vraiment plus forte sur le papier que celle des rouges. Je dirais que c'est relativement équilibré, en fait, dans les potentielles victoires aux épreuves entre les deux tribus.
Ouais, c'est ça qui est le déroulé de l'épreuve au niveau du choix des équipes permet cet équilibrage d'éviter qu'il y ait une équipe qui écrase tout le monde. Et alors, sans vouloir spoiler la suite de l'épisode, mais on l'a vu, ça a été quand même relativement serré sur les épreuves. Et je pense que voilà, les deux équipes vont se tirer la bourre jusqu'à la réunification et on se retrouvera pas une équipe, on se retrouvera pas un 8-4 à la réunification, quoi. En termes de nombre de forces en présence.
Du coup, en fait, les deux équipes aussi, petit truc, j'ai beaucoup apprécié le clin d'œil. Donc, en clin d'œil par rapport à la saison 1 de Koh-Lanta qui a eu lieu il y a 20 ans. Donc, on se rappelle, donc on avait reçu Stéphane de cette saison lors d'un épisode rétro-totem. On vous invite à l'écouter. qui était animé par Hubert Auriol. Et ben du coup, on a fait un petit flashback et le nom des équipes, ils ont repris les noms des équipes de la première saison, c'est-à-dire les Koroks et les Lantanai. Et ça, je suis content vraiment qu'ils aient fait ce petit clin d'œil-là, parce que c'est toujours sympa. Dans une saison, les légendes et tout ça, des 20 ans, ça paraît normal, mais c'est le petit clin d'œil qui fait toujours plaisir. Voilà, j'ai trouvé ça vachement sympa.
C'est notre petite Madeleine de Proust à nous, les trentenaires, qui ont connu la première saison. Je ne sais pas quel âge ont Juju et Emma, s'ils avaient connu à l'époque cette saison en direct, mais voilà.
Perso, j'avais 2 ans, donc j'en ai aucun souvenir, je suis désolée.
Un peu plus, mais j'ai commencé plus tard aussi, ma première saison en direct, je crois que c'était Vietnam.
Eh oui, là, vous n'avez pas connu le franc, vous, hein.
Voilà.
C'était la seule saison où le vainqueur a eu ses gains en francs. C'était 500 000 francs à l'époque.
C'est ça, oui.
Voilà, 500 000 francs, c'est-à-dire 50 millions d'anciens francs pour les octogénaires qui nous écoutent. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais voilà.
On les embrasse.
On les embrasse, profitez, il n'y a pas trop eu de canicule cet été.
Voilà, bah, on sent le comptable qui parle.
C'est ça.
Et merci Carou, à qui j'ai piqué la vanne. Il a dit merci monsieur le comptable, donc voilà, c'est merci Carou, toujours fidèle au poste. Et pour revenir donc chez les Koroks, alors ils ont inventé, donc ADF est plutôt divisé. Les Koroks ont inventé, selon certains, le cri de guerre le plus pété depuis le début d'émission ou le plus génial. Toi, je crois, Arnaud, que tu es plutôt du côté génial.
Moi, j'adore la poule, donc voilà. Disons que sur Twitter, je fais une révélation, je suis derrière le compte Twitter d'ADF.
Non.
Et j'espère que c'était
à son compte. Ouais, grosse révélation, oh. Voilà, les masques tombent, c'est moi. Ah putain, je suis copie-comique.
Et voilà.
Non, c'est pas vrai. On, avec Freeze, donc notre petit Freeze qui intervient régulièrement, on a tweeté quasiment en même temps. Voilà, moi j'ai mis que j'adorais et Freeze a dit que c'était le pire. Donc voilà, je pense que lors du live à la Gaieté Lyrique, on va se battre et le vainqueur aura la décision finale.
Non, j'ai trouvé ça... c'est assez éclaté comme cri de guerre, mais ça en devient drôle. Et puis ça montre qu'ils se prennent pas trop au sérieux. C'est aussi assez cool quoi, de voir ça. Ça fait un peu de comic relief au moment des épreuves et tout, alors que les autres, ils poussent un vrai cri de guerre, voilà. Ça, c'est toujours drôle, donc voilà, plutôt du côté pour également.
Ah oui, le cri de guerre des jaunes, je l'ai trouvé éclaté, donc celui des rouges, au moins, il a le mérite d'être drôle.
Oui, voilà, c'est tellement Laurent, quoi. On sent que c'est le Laurent qui est derrière et qui se prépare à la ferme célébrité. Non, mais voilà, c'est marrant, ça reste toujours un petit délire que eux seuls aussi peuvent comprendre et... On n'est pas sur place pour choisir, mais voilà, ça apporte un petit peu de baume au cœur, on va dire, dans ce monde de brut.
Van dit Carou à l'instant, petite déception que Christelle, la policière, ne soit pas dans l'équipe des poulets.
Putain, Carou, il va faire des bonnes vannes. L'ex-policière, parce que je suis pas sûr qu'elle soit encore
Je crois qu'elle est ex-policière, oui, il me semble.
Oui, oui. Et en tout cas, c'est une bonne stratégie, je trouve, pour de la part de l'équipe des Koroks, pour se mettre tous les vegans dans la poche.
Tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, une image aussi que Freeze a capturée comme ça, parce que c'est un de ses grands talents de capturer comme ça l'essence de ce qui fait le plaisir des émissions télé. Et du coup, il nous a fait une capture d'écran de Laurent et Théé qui sont en mode les bronzés à pas péter.
Vous pouvez retrouver en vignette lors de l'écoute de ce podcast.
Effectivement. Mais voilà, c'est ce genre d'image. On voit assez peu quand même les candidats avec des lunettes de soleil. C'est vrai, ils en ont. On sait qu'ils en ont. Ça fait partie de leur pactage. Mais on les voit quand même assez peu avec ça. Et du coup, bon, ça donne, on dirait deux pieds nickelés. Quoi. On dirait, ils sont drôles.
On dirait les bronzés 4.
Ça sent, avec des gens plus jeunes quand même. Et moins boomer.
C'est vrai que cette séquence était très drôle, mais elle annonçait le moment de creux quand même de l'épisode, que moi personnellement j'ai trouvé un peu plus creux. Tout le côté pêche des deux équipes, on a bien passé 20, 25, 30 minutes, ça m'a paru interminable ce moment-là. Bon, ouais. C'était sympa de les voir pêcher du poisson, mais c'était long.
C'est vrai.
Long,
non, c'est vrai qu'il y avait, ça aussi, justement. Ça, je l'ai peut-être un peu zappé, justement, parce que bon, c'est mignon à regarder, mais ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est vrai que c'était un petit peu long. De voir un petit peu, essayer. On avait vu aussi Hugo et Karima avec une espèce de piège avec un t-shirt qui était assez marrant.
Ceci dit, désolé, ceci dit, ça a permis de voir Candice. Parce que sans ça, on ne voyait pas Candice. Hein.
C'est vrai.
C'est vrai. Ils ont
fait un petit clin d'œil aussi à Jérémy, qui est son copain, mais qui était dans la même saison qu'elle et qui nous écoute et qu'on embrasse évidemment avec ses longs cheveux soyeux.
Voilà. Et pendant l'épisode, durant le chat, durant l'épisode, parce que avant ça, Candice, on l'avait pas vu, Bertrand Kamal avait eu plus de temps d'écran. Voilà, c'est une vanne de frise, tu la gardes pas, tu fais ce que tu veux.
C'est sale. Bon, j'hésite, très honnêtement. Emma, toi, pareil, toujours la séquence de pêche, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt pêche, toi ?
Très peu pour moi. J'ai trouvé ça très, très, très creux comme épisode. Après, là, c'est l'instant féministe de Sam, entre gros guillemets, parce que bon, ça y est, elle a pêché au harpon. Donc c'est une grande aventurière. Tout cet argumentaire autour de ça qui m'a un peu saoulée à ce moment-là. Elle pêche et puis c'est super, donc c'était assez creux. Voilà.
Mais c'est souvent comme ça des moments vraiment de milieu d'épisode, c'est-à-dire que ces moments vraiment où il se passe pas grand-chose et où du coup tu dis qu'est-ce que tu veux montrer, bah des gens qui pêchent ou qui cueillent des trucs ou qui cherchent des trucs aussi.
Oui, ceci dit, ça nous a permis d'avoir des nouvelles de Paul le Poulpe. Il coulait des jours heureux. À Tahiti, jusqu'à temps qu'il tombe sur Tewa. Mmh.
Bah, depuis 2010, je pense que la chair devait être un peu rance, tu vois.
C'est ça.
Mais pareil, il l'a cramé, ce poulpe. Est-ce que tu cuisines du poulpe, toi, Arnaud ?
Non, alors, j'ai jamais cuisiné de poulpe. J'ai déjà cuisiné du calamar, mais c'était déjà du calamar qu'on achète déjà préconçu. Non, j'ai jamais cuisiné de poulpe. Donc j'essaierai, je vous dirai comment on fait, et voilà, mais c'est très bon en tout cas le poulpe. Un animal très intelligent, petit point, c'est pas sorcier. Saviez-vous qu'un poulpe a 8 cerveaux, un dans chaque tentacule?
Effectivement, non mais c'est vrai en plus. Et c'est pour ça que je me dis, parce que parfois on regardait un peu Top Chef, tu vois, et on se disait le poulpe, c'est vrai que c'est comme ça peut être un petit peu caoutchouteux et tout, ça peut être compliqué un petit peu à faire cuire. Et là, je me disais, putain, il l'a complètement surcuit, donc du coup, voilà. Est-ce que, parce que, voilà, c'est non seulement si tu manges, et en plus qu'après, t'as des crampes d'estomac et tout, donc c'est pas ouf. Donc voilà, c'est dire à quel point ce milieu d'épisode était intéressant.
Ouais, ouais, ça fait quand même une demi-heure qu'on parle de cuisson de poulpe. Hein. Voilà.
C'est ça.
Mais bon, après, j'espère que Théoura, il cuisine mieux dans son food truck. Je dois ne pas, enfin, je pense ne pas en douter puisqu'il a, les instruments nécessaires. Alors que là, il faut quand même rappeler que, mine de rien, ils n'ont pas de marmite, ils n'ont rien pour cuisiner. Donc, c'est à la broche de fortune et il faut se débrouiller comme ça. Donc, ils ont quand même un certain mérite à survivre avec les éléments qu'on ne leur a pas donnés. En tout cas, de ce qu'on voit à l'écran.
Mais attends, il n'y a pas eu que le poulpe et puis la pêche, il y a eu les crabes aussi, les crabes de nuit.
Oui, les crabes. Et leur restait depuis le passage d'Arnaud.
Mmh. Et oui, c'est vrai. Là, au final, tu vois, Arnaud, qu'on voit à chaque fois dans les pubs Indeed au tout début, donc voilà, il a percé, c'est cool. Mais ouais, ça a été ça. Ça a été le poulpe, ça a été les poissons, ça a été le crabe. Voilà, petit instant de nature, de pêche, de
grâce. Et comme le dit Caro dans le chat, ça nous a permis d'apprendre des choses. Par exemple, que les oiseaux ont des becs, de la part d'Alexandre. Voilà.
Ce sont les oiseaux, oui, effectivement, qui ont des becs. Les ornithorynques aussi, vraiment. Mais après, voilà, c'est vraiment pour chipoter. On ne va pas non plus embêter cette pauvre Alexandra. Donc, voilà, on va dire que c'était un milieu d'épisode assez mou qui nous a mené à l'épreuve d'immunité, la première épreuve d'immunité en équipe. Et cette épreuve, c'était l'épreuve de la plongée sous-marine. Du coup, on se rappelle dans Koh-Lanta Fidji que c'était de Thomas, le champion de paddle, qui avait été évacué ça parce que avec la pression sous-marine, il était descendu trop bas, il était remonté trop vite, et du coup, il s'était crevé un tympan, ce qui fait très très mal.
Donc, oui, vas-y, finis, excuse-moi.
Non, bah, et du coup, en fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait rechercher des raies, comme ça, donc en plongée sous-marine. Et la dernière raie était à 8 ou 13 mètres, je sais plus. Donc voilà, c'était il y avait de la nage, il y avait de l'apnée, il y avait pas mal de compétences, aussi beaucoup de coordination d'équipe.
Oui, là c'était 13 mètres les dernières raies dans cet épisode.
Non, il me semble que c'était que 4 mètres en vrai.
Mais ouais, voilà, oui, c'est bien, oui, c'est ça, oui. Oui, parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que voilà, à l'époque de Thomas, voilà, fallait descendre à une dizaine de mètres, et je pense que ça les a calmés. Voilà, ils descendent beaucoup moins loin les aventuriers maintenant, je pense, pour éviter ce genre de soucis. Saviez-vous à combien de mètres était la raie la plus haute ?
2 mètres et quelques ?
Non, elle était à peu près à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. C'est la raie de Théoura que Sam a essayé d'attraper.
j'étais sûr qu'il allait la faire, celle-là. Alors, donc, du coup, cette épreuve qui a été remportée par les Rouges. Et on voit donc Clémence qui nageait un petit peu à la brasse, ce qu'il a été reproché ensuite, et Kumba qui parle d'un manque de coordination, enfin Claude qui parle d'un manque de coordination, et Claude qui râle. Encore. Voilà, il perd une épreuve, il gueule. Et du coup, voilà, pareil, donc cette épreuve, est-ce que vous l'avez appréciée, content de la victoire des Rouges, et aussi après on pourra peut-être se focus un peu plus sur l'équipe des Jaunes.
Ouais, L'épreuve était chouette, ça faisait plaisir de revoir le Grand Bleu qui était un classique de Koh-Lanta jusqu'à cette blessure de Thomas que tu as évoqué. Je crois qu'il n'y avait pas eu, hein, depuis 2018, on n'avait pas eu le droit à cette épreuve. Et ils l'ont un peu adapté pour limiter le risque d'accident, ce qui n'est pas plus mal. Mais ça reste une épreuve très, très chouette. Moi que j'aime bien les épreuves d'apnée, je trouve ça assez... assez intéressant à voir, surtout quand les équipes sont équilibrées et qu'il n'y en a pas une qui tombe derrière l'autre assez vite. Là, elles se sont vraiment tirées la bourre jusqu'à la fin, avec une belle remontée des Rouges qu'on pensait un peu derrière et qui finalement double les Jaunes. On pouvait se prendre à supporter à la fois l'une ou l'autre équipe, hein. Il n'y avait pas vraiment de distinction. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et c'était vraiment une épreuve très chouette. Et effectivement, on a pu voir à la fin de l'épreuve le côté un peu mauvais joueur de Claude, mais qu'on connaît. Et moi, ça me fait rire, hein, de voir ça, parce qu'on sait qu'il va gueuler à chaque épreuve perdue. Pour autant, ça lui portera pas préjudice avant un petit moment. Donc, c'est toujours des moments qu'on attend et qu'on sait. On sait qu'on va y avoir droit quand il y a Claude dans une saison.
Et d'ailleurs, chez les Rouges, on a vu Laurent qui a fait une apnée incroyable, c'est-à-dire que juste après avoir pris l'arrêt, il n'a pas remonté à la surface pour ensuite nager, c'est-à-dire qu'il a fait l'apnée, en fait, tout simplement, et du coup, ça lui a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, Laurent, très, très, très impressionnant physiquement, et notamment à la nage. Et pareil pour... On voit un petit peu qu'il y a une espèce de duo Claude Kumba, et là ils se sont un petit peu pris le bec. Donc Kumba qui parle encore comme un biscuit chinois, et qui va s'opposer à Claude. Et ça, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas innocent qu'on nous montre ça justement, et que Claude va pas dire dans les prochains épisodes, écoute, Kumba, Emma Gaz, bim, on la dégage. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez venir, genre, bah tiens, Emma, justement, c'est vrai qu'on t'a pas entendu beaucoup.
Ou alors, dans un autre monde, ce serait Kumba qui blindside Claude, et c'est pour ça qu'on voit ces petites séquences dans un monde...
Parfait.
Dans un monde où Claude n'est pas une légende comme ça. Mais voilà, non, sinon, épreuve très chouette à voir. Et puis, assez impressionnante des performances sportives de Laurent et mais aussi Clémentine, Alix, donc c'était super cool à avoir comme épreuve, et puis peut-être des tensions futures dans l'équipe de Claude Kumba, etc., chez les Jaunes, donc voilà, très sympa.
Sur la petite prise de bec Claude et Kumba, pas persuadé que ça annonce le blindside ni de l'un ni de l'autre, enfin du moins pas dans l'immédiat. Peut-être que c'est une préparation paiement de long terme, mais je les vois mal se foutre sur la gueule dans les prochains épisodes.
Ensuite, bah du coup, on se retrouve chez les Jaunes où ça commence à stratégiser. Clémence se sent en danger, donc parce que donc il y a donc Kumba et Christelle qui voulaient voter contre elle et tout, donc elle se sent en danger. Elle pleure un bon coup et on sent qu'elle commence un petit peu à aller chercher pour le collier. Collier qu'elle finit par trouver. Son premier collier, donc en cas de participation. Bon, on vous dira, il n'y avait pas de collier lors de ces deux premières, mais voilà, donc ça faisait plaisir un petit peu qu'elle, voilà, qu'elle le trouve. C'était aussi, voilà, on pouvait s'attendre à ce qu'elle le joue ce soir. Au final, elle a pas fait, c'est ce qui était très bien. On voit des femmes un petit peu qui hésitent. Donc Clémence qui veut pas voter contre Maxime parce qu'elle aime bien et tout ça. Donc Kumba qui dit ça, nous les femmes, on est trop sentiments, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on tient pas. Emma, en tant que représentante du genre féminin, qu'est-ce que tu penses de ce genre de phrase ?
Honorée de ce titre sur ADF. C'est vrai qu'on est vraiment parti sur une saison qui oppose les genres, quoi. J'avais noté une phrase de Jade qui disait « c'est pas la guerre des légendes, c'est la guerre des genres ». Voilà, on est vraiment parti là-dessus dès le début, et là ça continue malgré un peu le remix des équipes. Qu'est-ce que je pense de cette phrase ? Pas grand chose, honnêtement, c'est que voilà, je trouve qu'il y a une part de vérité parce que c'est vrai que les femmes s'octroient toujours beaucoup plus de charges émotionnelles que les hommes et ont toujours peur de faire du mal, peur de blesser, etc. Et ça peut aussi expliquer les potentiels remords de Clémence. On voit que Clémence a des remords, ça fait 3 ans qu'elle a dû voter pour Candice, du coup elle lui révèle son collier un peu plus tard, alors qu'un mec, je pense, dans cette situation. Je ne sais pas s'il aurait eu la même démarche, ou en tout cas, il ne l'aurait peut-être pas dit devant la caméra. Donc voilà, après, je trouve que c'est un peu le genre de phrase inutile, mais c'est aussi le genre de phrase de Kumba. Pardon.
C'est sauvage, ça.
Non, mais c'est vrai que ces phrases un peu post-Facebook de 2012, on commence à les connaître, mais je trouve que c'est un personnage quand même qui me plaisait pas trop sur les deux premiers épisodes, mais que là, je trouve de plus en plus intéressant parce qu'elle joue, parce qu'elle fait de la stratégie, elle s'en empare, et c'est super intéressant de voir ça. Et puis voilà. Et puis, je sais pas si on allait revenir dessus, mais la séquence chez les Rouges où Alix... mytho complètement Namadia et sur les potentielles stratégies et alliances de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle, personnellement. J'ai beaucoup ri devant cette séquence. Et je trouvais ça assez rafraîchissant aussi. Mais c'est vrai qu'on est quand même parti sur une saison en opposition homme-femme. Et je pensais que ça allait un petit peu s'atténuer avec le mélange des équipes. Et c'est pas du tout le cas. Donc c'est un peu dommage, mais on voit quand même des choses assez sympas, donc voilà.
Alors de son côté, on sait pas trop qui est en danger, ça parle de Maxime, et au départ, même si les hommes veulent faire une asso, enfin comme l'a dit Emma, homme contre femme, donc guerre des genres, eh ben on voit que Claude ne serait pas contre voter Maxime, et du coup il y a cette espèce de petit suspense un petit peu. Alors Maxime... Le dernier épisode, c'est vrai qu'on l'avait, un peu pourri. Bon voilà, je suis sûr que c'est quelqu'un de très gentil en dehors, ça, je le crois tout à fait. Et alors en tant que candidat, il est d'un pénible. Oh là là, mais là sur cet épisode, ce qui est chiant, c'est que du coup, parfois, c'est qu'il parle assez peu quand même. Mais je sais que personnellement, quelque chose, je regardais, je faisais, allez, vas-y, arrête. Et je sais pas si vous aviez aussi cette impression-là, vous.
Ouais, Maxime, il a pas changé depuis la guerre des chefs. C'est toujours un bon petit soldat qui attend qu'on lui donne sa récompense parce qu'il a des valeurs et parce qu'il est droit et qui est toujours là pour dire qu'en camp scout, il a appris à tirer à l'arc et il a appris à lancer des trucs dans des paniers. Et voilà, c'est ses compétences et c'est ses valeurs et tout ça. Il a toujours le même discours en boucle. Voilà, on a vu Maxime une fois, on l'a vu deux fois. Voilà, c'est vraiment, j'espère qu'on le verra plus trop parce que à chaque intervention c'est fatigant et ouais, vraiment on dirait qu'il a pas du tout évolué en 3 ans et c'est assez dommage parce que je pense qu'il a aussi des capacités et du coup c'était dommage de voir ça, donc pas déçu, enfin pas surprise mais quand même un peu déçu
de Maxime. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Maxime, il a quand même un petit peu évolué depuis la guerre des chefs, de son propre aveu. Hein. Il avait bien perçu que ce qui lui avait fait défaut sur la guerre des chefs, c'était son côté moralisateur, donneur de leçons, chiant, on peut le dire. Et là, j'ai l'impression, enfin, de ce qu'on nous a montré et de ce qu'il dit à sa sortie, qu'il avait essayé de travailler là-dessus, qu'il avait essayé d'adopter une approche un peu plus sociale, un petit peu détendue, de moins être en contrôle permanent. Mais peut-être que du coup, il est un petit peu trop allé dans l'extrême inverse et il est devenu. Ce que disent les autres pour justifier leur vote, c'est qu'ils le trouvent faux. Ils trouvent qu'il en fait trop. Et du coup, ouais, peut-être qu'il en a trop fait. Et après, dans ce qu'il nous montre face caméra, dans ses confessionnaux ou autres, sur les valeurs, là, je partage tout à fait ce que vous dites. C'est un peu pénible, c'est un petit peu. Enfin, on a fait le tour.
Ouais, je pense qu'on n'a pas tout vu aussi sur le comportement de Maxime, parce que dans les confesses, beaucoup disaient qu'il restait beaucoup sur le camp, à parler, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il a peut-être identifié, disons, un manque de social, mais il l'a réglé en. Pas en étant lui-même et en lâchant un peu du lest, mais en reportant un peu son obsession de performance des épreuves vers le social, et ça agace tout autant, je pense. Donc, pas étonné qu'il soit sorti aussi vite, et pas déçu non plus.
Ah, mais c'est ça, ouais, c'est qu'il force, enfin, j'ai l'impression qu'il forçait un petit peu la chose, et qu'il y avait un côté un peu faux. Et même Kumba, à un moment, le dit, voilà, le masque, il n'est pas tombé, j'arrive pas à voir ce qu'il y a en dessous. Bon, encore une phrase un peu à la con, hein, ouais, les masques tombent. Enfin, bref. Mais, y a, voilà, ça reste quand même une part de vérité, c'est que, bah, voilà, tu. Tu forces le truc, ce côté un petit peu, ouais, faux. Contrairement à un Sam qui se trouve un côté féministe, mais je pense que lui, c'est plus un féminisme, voilà, par rapport aux, entre guillemets, légendes et son côté fanatique du jeu, donc je pense qu'il est, enfin, du jeu de Koh-Lanta, de l'émission, donc, voilà, où il porte des Jade, des Clémence, un petit peu au statut d'icône. Maxime, lui, contrario, c'est ce côté, bah, je veux bien me faire voir avec mes belles valeurs, je veux, voilà. C'est une sorte de, je sais pas, de contrôle sur soi-même pour se donner un genre qui, je sais pas, ça passe pas. Ça passe pas, et visiblement, c'est pas passé aussi sur le camp. Voilà, et comme on pouvait s'y attendre, non, parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse l'unanimité contre lui. Donc.
Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. En plus, si je peux rajouter un petit quelque chose, c'est que il avait la composition.
Ce que tu veux.
Il avait... Merci. Il avait la composition d'équipe pour s'en sortir. Parce que du côté des femmes, il avait Clémence, qui avait déjà essayé de tisser un lien avec lui, qu'on a vu très réticente à l'idée de voter Maxime, qui d'ailleurs finit par ne pas le voter. Bon, c'est sans doute parce qu'elle savait que son vote ne changerait pas l'issue du vote. Et du côté des hommes, il n'était pas avec les profils les plus sociables, justement. Il était plutôt avec les taiseux, les Phil, les Sam. Claude est un peu à part, mais on a longtemps cru pendant l'épisode qu'il était en balance avec Phil, potentiellement. Il aurait pu gagner un peu plus la sympathie des filles s'il en avait peut-être un peu moins fait, paradoxalement.
Mais ouais, alors j'ai Icarou dans le chat qui dit que, en fait, le truc de Maxime, c'est que de base, tu sens qu'il n'a pas confiance en lui du tout. Et du coup, c'est pas juste une confiance en. Enfin, parfois, c'est quand t'es dans un nouveau truc, c'est dans un nouveau groupe et tout comme ça, tu peux manquer de confiance en toi, tu peux, voilà, tu veux faire tes preuves et tout. Mais lui, en fait, on a l'impression que c'est plus profond, c'est beaucoup plus profond. Et que du coup, les réponses qu'on appelle aux États-Unis, on appelle ça le coping, c'est-à-dire comment tu fais un petit peu pour gérer avec ça, qu'est-ce que tu mets en place un petit peu comme stratagème pour avoir une face sociale, en fait. Et en fait, ça perçoit que, bah, qu'à chaque fois, ça marche pas. Et que quand ça marche pas, bah, qu'il est complètement désespéré. C'est vraiment, je pense que Maxime, oui, je pense que c'est ça. C'est que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a très peur de l'image qu'il va renvoyer. C'est quelqu'un qui a très peur aussi, je pense, du regard des autres. Ça me fait penser un petit peu, bon, pas dans la. Enfin, c'est pas pareil, mais je pense qu'il y a un petit jumelage à faire avec Dorian des Quatre Terres, qui lui aussi était un athlète très très accompli, mais qui était complètement paniqué et obsédé par le regard extérieur, et qui le disait lui-même, qu'il avait très 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 peu confiance en lui. Et du coup, là, c'est vrai que Maxime, là, il a rien vu venir. Voilà, il a rien vu venir ce soir. Et bon, voilà, c'était c'était un beau blindside, vraiment, parce que tous les mecs ont voté contre lui. Et il y a juste eu un vote contre Phil et...
C'est Clémence.
Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai Clémence qui vote contre Phil, qui ne veut pas voter contre lui. Et un vote contre je ne sais plus qui.
Bah, c'est le vote de Maxime qui vote contre Phil.
D'accord.
Comme il pensait que c'était le plan des
d'accord.
Des...
Bah, du coup, en fait, donc Maxime qui se prend vraiment un blindside. Et alors ça, par contre, j'ai trouvé ça de... Il y a quelque chose d'un peu surprenant, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ne voit pas vraiment pourquoi les hommes ont voté contre lui. On voit Claude qui dit qu'il n'aurait pas forcément peur de voter contre lui. Mais alors, par contre, Sam, et alors, attends, Sam qui dit c'est pas juste pour les femmes, ça c'est pareil, on était scotché. Lui qui disait, enfin, qui parlait d'hommes vrais dans l'île des héros, qui parlait de, enfin, en gros, qui avait une attitude limite méprisante envers les femmes de son équipe, c'était. Ouais, c'était. On était très surpris de ça.
Bah, disons que ça revient à ce que je disais juste avant, c'est que à la différence avec l'île des héros, voilà, on sentait, bon, sans faire offense à Ahmad et tous nos amis du casting de l'île des héros, on sentait que le casting avait été un petit peu, voilà, ils n'avaient pas mis trop de force de la nature, que ce soit côté homme et côté femme. À part Nawel côté femme et Sam côté homme, voilà, ils en avaient mis un de chaque côté, mais fallait pas trop en mettre parce que bon, il aurait pas fallu que Sam que Théoura et Claude aient trop d'ombre. Et donc du coup, ben Sam avait un petit mépris pour le casting féminin, pour ses coéquipières, voilà, parce que pour lui elles étaient faibles, elles n'avaient rien à faire dans l'aventure, etc. Et on sentait ce machisme gagner au fil de l'aventure. Là, la configuration, elle est différente. C'est les légendes, c'est Jade, c'est Clémence, c'est aussi Clémentine, Candice, etc. Donc ce sont des aventurières qui sont aguerries, qui sont sportives. Lui qui est fan de l'émission depuis qu'il est gamin. Donc... Je pense pas que ce soit un travail qu'il ait fait sur lui-même, mais je pense que c'est son regard de fanboy de l'émission qui parle pour lui, quoi. Donc voilà, c'est. Mais ça peut surprendre venant de ça. Bon, on s'attendait pas quand même qu'il soit sous cet aspect-là. Ouais.
Ouais, qu'il défend les femmes comme ça, qui ait changé, qu'il fasse un petit revirement. Et du coup, pareil, vous. Donc après, on pourra passer la parole à Emma, Juju et tout. Pourquoi, en fait, les hommes se sont retournés? J'ai pas tout à fait compris pourquoi. C'est pas très clair, je trouve.
Je pense que les hommes se sont retournés parce que Claude avait quand même des doutes sur Maxime en termes de loyauté et de fiabilité. On le voit un tout petit peu à un moment donné où Claude parle avec Sam, il me semble, juste avant le conseil, par rapport à la loyauté de Maxime. Après, je pense qu'ils n'ont pas montré d'autres scènes pour laisser un peu de suspense pour le conseil. Mais oui, je pense que ça explique aussi le blindside de Maxime. Après, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense aussi, je ne sais pas si les candidats ont eu le temps de voir le début des armes secrètes avant d'enregistrer, avant de partir en tournage pour cette saison. Mais il y a peut-être aussi la dynamique des Rouges de l'année dernière qui voulaient absolument rester entre hommes à la réunification, qui avait pas mal fait polémique. Et je trouve ça bien que ça puisse être un impact un peu plus positif des réseaux sociaux, si c'est le cas en tout cas, s'ils ont eu le temps de voir ces moments-là. Et puis de dire par rapport à leur image, en fait, tout simplement, que bah, ce serait mieux vu... de ne pas vouloir aller contre hommes à la réunification. Je ne sais pas si les réseaux sociaux ont pu jouer un rôle là-dedans. Mais en tout cas, oui, je pense que pour l'élimination de Maxime, il y avait beaucoup de ces conversations par rapport à Claude et à ses doutes sur sa loyauté.
Oui, effectivement. Je pense qu'on ne nous a pas donné toutes les clés pour comprendre l'élimination de Maxime, mais on a eu en filigrane les doutes de Claude, et Claude est quelqu'un d'extrêmement important dans l'équipe et dans la saison de manière générale. Donc, Ce que dit Claude à la caméra et d'autant plus aux autres candidats, c'est des éléments importants. Et donc, Claude avait déjà exprimé des doutes vis-à-vis de Maxime au premier épisode. Il avait voté contre lui au deuxième épisode. Donc voilà, c'est quelque chose qui se tramait depuis quelques temps déjà, et c'est pas une si grosse surprise que ça de sortir quelqu'un en qui il n'a pas confiance plutôt que d'aller au clash et au statu quo 4-4 contre les femmes, qui aurait pu diviser la tribu en deux et aboutir à quelque chose d'assez stérile et de contre-productif. Là, il doit se dire sans doute qu'il se laisse une marge de manœuvre avec Kumba pour manœuvrer par la suite. Après, à voir, parce que peut-être que Maxime a raison dans ce qu'il dit à la sortie et que les hommes se sont peut-être tiré une balle dans le pied si effectivement la stratégie des femmes de rester entre elles tient encore plus longtemps. Donc ça, on aura
Ouais,
les réponses par la suite.
je pense que tu as raison, Juju, par rapport à ça, qu'il y a peut-être pas une alliance, mais en tout cas une amitié entre Claude et Kumba qui est plus forte que les équipes d'appartenance d'origine homme-femme, et qui a fait que Claude a préféré éliminer un Maxime qui était pas vraiment son pote et qui allait peut-être pas forcément lui être utile par la suite pour privilégier sa relation avec Kumba et peut-être retarder. D'un épisode l'élimination d'une femme de l'équipe. Mais c'est vrai que si la stratégie des femmes tient, ça pourrait se retourner contre lui. Et ce serait beau à voir.
Après, je ne sais pas s'il serait le premier homme visé en cas de ligue féminine dans cette équipe. Je vois plus un Phil ou même Sam partir avant Claude quand même, parce que Kumba le protégera malgré tout de l'élimination, à mon sens.
Oui, je pense qu'elle le gardera jusqu'à où elle peut. Ouais, carrément.
Je suis d'accord. Et ce qui est plaisant, c'est de voir que ça a chafouiné le FC Twitter et la team Claude du FC Twitter. Parce que, oh là là, mon Dieu, qu'a fait Claude? Il s'en est pris à un homme. Du coup, les vilaines femmes vont se venger et éliminer tout le monde. Oh là là, mon Dieu. Non, mais Claude, il a juste joué son jeu. Il n'avait pas besoin de Maxime. Il n'avait aucune affinité. Il se méfiait de Maxime. Et il avait des affinités avec Kumba et peut-être avec d'autres femmes de l'aventure. Donc voilà, il a mené sa barque, il a été un petit peu stratège sur le coup. Tant mieux, tant mieux. Et vos gueules, le FC Twitter.
Ouais, moi je trouve
Voilà, c'était mon petit point, Gérard Lanvin.
c'est génial, et franchement je me délecte des larmes de Twitter sur ce coup-là. Ça fait vraiment plaisir de sortir Claude un peu de son piédestal aussi, sur lequel les gens ont mis qui paraissait indéboulonnable, et là c'est cool de voir que bah, il fait de la strat, il joue son jeu, et ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est en général bon signe qu'il joue un bon jeu, quoi.
Non, mais en plus, ben, la plupart de ceux qui sont un peu, qui sont comment, froissés par ce qu'a fait Claude, c'est des mecs qui l'ont pas vu lors de ces deux premières saisons. Sinon, ils comprendraient comment est Claude. Même si là, il a quand même beaucoup bossé son social. C'est bon, arrêtez de faire les mecs qui connaissent Claude et qui pensent que c'est un valeureux candidat qui va chercher à garder les plus forts jusqu'au bout, etc. Au demain, Claude, c'est un joueur. Il joue. Voilà, s'il faut éliminer un Théoura dans l'aventure, il le fera. Bon, je pense pas qu'il le fasse là, mais il l'a fait par le passé.
Voilà, ou alors il va utiliser des moyens détournés pour le faire, comme
Comme il l'a fait à la
Hero.
rencontre. C'est ça. Donc voilà, le FC Twitter qui a l'indignation un peu dans tous les sens. Moi, je suis bien content de la façon de jouer de Claude.
Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette élimination et sur cet épisode? Quelque chose qui vous vient en tête et qu'on n'aurait pas abordé?
Moi, sur l'élimination, pas vraiment, mais j'aurais bien rajouté un petit point sur Clémence, et notamment sur son lien avec Candice, que je trouve très intéressant. Et j'ai eu assez peur quand elle trouve le collier et qu'elle dit qu'elle va le dire à tout le monde, enfin à toutes les filles. Je trouvais que c'était une idée de merde. Et j'étais très content de voir que Candice avait cette réflexion stratégique-là de lui dire non, c'est une mauvaise idée. Il faut le garder pour toi et donc pour nous, puisque tu l'as partagé avec moi. Et ça nous donne une alliance assez intéressante que je demande. je demande à voir où ça va graine d'une future, future strong ouais. assez importante dans le jeu.
Strong, c'est-à-dire un duo fort.
Ah oui, d'accord, ok, merci.
Ouais, je suis assez d'accord.
Désolé, je ne crois pas Wall Streaking.
On me met trois paris.
Je suis assez d'accord avec ça. C'était assez intéressant de voir ça par rapport à Clémence et aussi de voir le, bah, la division des votes chez les filles. Clémence qui vote Phil, à un moment donné, elles se disent on reste sur son avis, on fait 3-1 et du coup, elle divise quand même les votes au cas où il y a un collier. Donc, une solidité stratégique assez plaisante à voir à l'écran.
Alors bah du coup l'épisode donc, se termine là, donc on a une élimination assez réjouissante, et du coup bah, il me reste qu'à vous dire bah, merci à tous les trois, donc merci Arnaud, merci Emma, merci Juju.
Merci à toi merci Damien, merci à tout le monde de nous avoir suivis dans le chat, merci à Emma et à Juju, c'était un plaisir.
Plaisir partagé.
Et du coup, j'en profite pour redire donc l'annonce de début de podcast, c'est-à-dire que retrouvez-nous le dimanche 17 octobre à Paris, donc à la Gaîté Lyrique, pour un live en direct et en public lors du Paris Podcast Festival. On sera au foyer historique de la Gaîté Lyrique. Donc si vous voulez nous voir en vrai, si vous voulez voir un petit peu la candidate, normalement, qui sera avec nous, bah, du coup, rejoignez-nous. Je crois que l'entrée est gratuite, si je ne dis pas de bêtises, et si c'est pas le cas, bah, du coup, je le couperai au montage. C'était Damien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Salut.